Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là derrière le micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Le 4e salon de la santé mentale du sud-ouest de Verdun aura lieu demain 6 mai. Un événement qui est gratuit, qui s'adresse au grand public et qui a comme objectif de démystifier les enjeux qui sont liés à la santé mentale, d'offrir de l'information générale aussi. Et ça se fait ça via 50 organismes qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, également leurs familles qui sont touchées, c'est évident, par ces soucis de santé-là, mais aussi par des conférences qui sont offertes par des experts sur l'anxiété, la psychose, les dépendances, l'accumulation compulsive. En deuxième partie d'émission, Barry Grego, lui qui est chef clinico-administratif à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, sera là pour nous en parler davantage. Et puis, le 8 et 9 mai, partout au Québec, on parle de 80 villes, aura lieu la 10e édition du 24 heures de science. On parle de 350 activités liées à la science, à la technologie et de toutes sortes là, qui s'adressent aux familles. Vraiment, encore là, pour tous les goûts, des activités souvent qui sont gratuites. Et le thème de cette année, c'est la lumière. Le docteur Yves Deconinck, lui, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, sera là pour offrir une discussion sur la lumière. Oui, la lumière, mais lumière sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau qui, vous le savez ou vous vous en doutez, est un organe qui est extrêmement complexe, qui est extraordinaire, aussi très fragile et dont le rôle est primordial. On lui parle à l'instant pour en savoir davantage. Docteur Deconinck, bonjour. Bonjour, docteur Deconinck. Avez-vous disparu? On dirait qu'il a disparu. On remet le pont musical et Jean-Sébastien, derrière la régie, tente de le joindre. On vous revient dans quelques instants. Docteur Deconinck, bonjour. Il est juste à Québec pour d'un pas à l'autre bout du monde. Docteur Deconinck, vous êtes là? Docteur Deconinck, bonjour.
Bonjour.
Jamais 203. Et là, on vous a au bout du fil, vous êtes à Québec, vous arrivez de la Californie. Je pensais que vous étiez encore là-bas.
Non. En fait, j'arrive de la Californie après un saut en Australie.
Donc. Ah oui. Mais là, bon, vous êtes de retour en province et on parlait justement de ce 24 heures de science. Vous allez y participer. Vous allez parler justement du cerveau. Bon, vous en êtes un spécialiste, bien sûr. Et lorsque l'on parle du cerveau, ce sont vraiment les nombres qui frappent l'imaginaire. On parle de 100 milliards de neurones, 10 000 connexions. Peut-être que c'est si fascinant parce que le cerveau a vraiment un grand, grand impact sur le fonctionnement de tout notre corps.
Bien, c'est lui qui contrôle tout, en fait. Hein. C'est tout est dans le cerveau, je dirais. Évidemment, c'est certain qu'on a besoin de nos muscles pour bouger. On a besoin de notre système digestif pour transformer la nourriture. Mais tout le contrôle de ce qu'on fait, c'est notre cerveau. Le départ de toute la pensée, etc., ça prend racine dans le cerveau. Notre perception du monde, hein, tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche, etc., tout ça, c'est emmagasiné dans le cerveau, c'est traité, et toutes les actions qu'on va prendre, c'est le cerveau qui les contrôle. Même quand on a des fois des certaines faiblesses, où on le sait par exemple avec les gens qui ont des dommages au système nerveux, qui peuvent avoir des problèmes de paralysie ou quoi que ce soit, mais même dans certaines maladies où on a des faiblesses au niveau motrice, ben c'est souvent le cerveau là, qui fait défaut.
Oui. De quoi est composé notre cerveau? Là, je parlais de milliards de neurones. Là, ça en fait beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans notre tête?
Oui. Ben, je suis désolé de vous le révéler, mais votre cerveau, c'est principalement du gras.
Ah oui, c'est chic.
C'est du gras, mais c'est du gras très, très bien organisé. En fait, il y a quand même des protéines, bien sûr, dans notre cerveau, il y a toutes sortes de choses, mais c'est intéressant que une grande partie du cerveau humain, notamment, c'est le gras. Et le gras, pourquoi? C'est parce que c'est l'isolant entre tous les fils. Vous l'avez dit tout à l'heure, 100 milliards de neurones. Chacun de ces neurones-là fait jusqu'à 10 000 connexions avec les autres. Ça fait en tout plus d'un million de milliards de connexions. Mais pour que ces connexions fonctionnent bien, ben il faut qu'ils soient assez bien isolés aussi. Imaginez-vous, vous le savez chez vous, les fils électriques ont besoin d'être isolés. Mm-hmm. Ben, c'est la même chose dans votre cerveau. Chacun des petits fils se trouve à être isolé par une gaine autour et elle est principalement faite de gras.
Et notre cerveau, bon, c'est bien qu'il soit protégé parce que ça demeure un organe qui est fragile.
Ben, extrêmement fragile. Pensez-y, si vous mettez un million de milliards de connexions à l'intérieur de votre tête, on parle de structures qui sont extrêmement petites. Chacune de ces connexions-là sont moins de un millième de millimètre. Mm-hmm. Alors, il faut... Et c'est là que ça se passe. Toutes ces connexions dans notre cerveau, c'est là que la fameuse neurochimie de notre cerveau se passe. C'est là que la communication entre les cellules nerveuses se fait. Cette communication-là, elle se fait par de la chimie, etc. Il faut que ces connexions-là se préservent pendant des fois des années.
Oui. Hein?
Donc, c'est très, très, très fragile. En même temps, c'est ça qui est merveilleux, c'est que notre cerveau, c'est quelque chose qui est, dans notre jargon, on dit que c'est un organe extrêmement plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une capacité énorme au cerveau à se remodeler, à se réorganiser, à se transformer constamment. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, les connexions dans notre cerveau se font, se défont, se refont. Si vous avez une blessure à un endroit, si vous avez une lésion, vous avez eu un accident vasculaire ou quoi que ce soit, vous pouvez perdre des fonctions, mais par cette capacité incroyable que le cerveau a de se réorganiser, on est capable de regagner certaines fonctions, etc. Donc, c'est un organe extrêmement fragile, mais en même temps qui est capable de...
De se régénérer. Et ça, c'est une découverte qui est assez récente. On parle de 10-15 ans à peu près. Ça a dû changer énormément les perspectives en recherche.
Absolument. Alors, quand moi, à l'école, on m'a toujours dit que le cerveau, le nombre de cellules qu'on a dans le cerveau, c'est fixe. Et c'est downhill à partir de ce moment-là. On perd des cellules nerveuses tout le long de notre vie et puis ça ne fait que s'empirer. Non, le cerveau a une capacité de se régénérer. D'abord, de régénérer, il réorganise constamment ses connexions, mais aussi il y a de nouvelles cellules nerveuses qui sont produites tout au cours de notre vie et qui viennent remplacer les autres. Et ce que des chercheurs chez nous, ici à l'Institut de santé mentale à Québec, on trouvait les règles, si vous voulez, qui gèrent la production de ces nouvelles cellules et leur migration à l'intérieur du cerveau. Ils vont après ça s'intégrer à l'intérieur de différents endroits du cerveau. Et en connaissant comment est-ce que ça se fait, on est capable d'essayer de les rediriger, ces cellules-là, pour pouvoir les diriger vers des endroits qui ont été endommagés, par exemple.
Mais, donc, docteur de Koenig, ça peut amener de superbes perspectives lorsque l'on parle des pathologies associées à un cerveau malade, Parkinson, Alzheimer, si on parle du fait que les neurones, que notre cerveau peut se régénérer, on peut trouver des traitements. En tout cas, du moins, on peut avoir l'espoir.
Absolument, absolument. Les maladies dont vous parlez, Parkinson, Alzheimer, Huntington, tout ça, ce sont des maladies qui ont à voir avec la dégénérescence prématurée de certaines régions qu'on connaît bien du cerveau. C'est toujours la course. Hein. Comment est-ce qu'on peut essayer pour l'instant, la plupart des traitements sont des traitements palliatifs. C'est-à-dire que si je n'ai plus assez de cellules dans certaines régions de mon cerveau qui font que je ne produis plus assez de dopamine, par exemple, et ce qui amène à la maladie de Parkinson, on peut essayer de pallier. C'est-à-dire qu'on va aller aider les cellules qui restent à produire un peu plus de dopamine ou aller aider à rajouter de la dopamine. Mais ce n'est que palliatif. Ça n'empêche pas le cerveau à continuer à se dégénérer. Oui. Puis à un moment donné, on perd la bataille. Mais avec l'idée de pouvoir rediriger des cellules vers ces régions-là et essayer de régénérer ces régions-là, on a une perspective enfin, on peut rêver, mais oui, on s'en va vers une perspective curative pour les maladies dégénératives. Mm-hmm.
Docteur de Koenig, vous vous intéressez beaucoup aussi à la douleur. Je me demandais quel était le lien entre douleur et le cerveau, quel était l'impact du cerveau ou peut-être même de la douleur l'un sur l'autre.
Ben, c'est la question clé. En fait, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est quand je vous marche sur le pied, c'est pas dans le pied que ça fait mal. C'est toujours dans la tête que ça fait mal. Toute votre expérience sensorielle, quand vous voyez, quand vous touchez, quand vous sentez, c'est dans la tête que vous voyez, que vous touchez, que vous sentez. C'est pas dans vos mains, c'est pas dans votre nez, etc., que vous percevez. La perception du monde extérieur, ça se fait par notre cerveau. C'est notre cerveau qui est l'organe qui traite toute l'information, qui la traduit en une expérience interne et qui va après ça agir. Donc, quand j'ai mal, en fait, le signal, je vous ai marché sur le pied, ça a déclenché un signal dans le pied qui est ensuite envoyé le long de vos nerfs jusqu'à la moelle épinière. Il y a un premier traitement de l'information, un filtrage de l'information, une analyse d'information qui, elle, est envoyée après ça vers la base de votre cerveau et ensuite à la surface de votre cerveau, ce qu'on appelle le cortex, et c'est là que vous percevez. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que c'est important de le voir comme ça? C'est parce que ça veut dire essentiellement que si le signal est changé n'importe où le long du chemin, ben vous allez avoir une perception anormale. Mm-hmm. Et c'est ça la douleur chronique, c'est le fait que un signal qui normalement ne devrait pas déclencher de douleur va être interprété par votre cerveau comme voulant dire que c'est de la douleur. Et là, ben, c'est là que ça devient extrêmement débilitant. Dans certains cas, l'hypersensibilité, si je vous blesse, si vous avez une blessure, vous savez, c'est toujours très sensible autour. Ça, mm-hmm, c'est normal. C'est normal, c'est une réaction, si on veut, du corps qui nous force à protéger la région qui est abîmée. Mm. Le drame, c'est qu'après qu'il y ait une guérison complète de cette blessure-là, il y a des gens chez qui cette hypersensibilité ou cette sensibilité anormale, elle se maintient, elle perdure. Et là, c'est parce que notre système nerveux qui envoie l'information vers le cerveau, voire même notre cerveau lui-même, interprète de façon anormale le signal. Et là, on a affaire vraiment à ce moment-là à un comportement malade de notre système nerveux.
Justement, pour éloigner la maladie, docteur de Koenig, comment on fait pour garder son cerveau le plus en santé possible?
Ça, c'est certain qu'il y a il y a plusieurs théories là-dessus. Hein? Est-ce que c'est bon d'essayer d'exercer son cerveau avec toutes sortes d'exercices? C'est certain que le cerveau, c'est un peu comme nos muscles. Hein? Plus on exerce, plus on stimule notre cerveau, plus il fait des connexions, etc. C'est encore incertain de savoir si pour les maladies dégénératives, ça peut aider. C'est certain que ce qui est aussi important, c'est d'essayer d'éviter qu'on s'embarque dans des routines toujours simples. Le fait qu'on ait toujours affaire dans notre vie à des nouvelles situations, obligé de s'adapter constamment à quelque chose de nouveau, c'est très important pour stimuler notre cerveau et essayer de prolonger son fonctionnement le plus longtemps possible.
Et bien sûr, si l'on fait des sports extrêmes, on tente de le protéger. Vous devez être assez content. Depuis quelques années, de plus en plus, on parle des commotions cérébrales, on les démystifie aussi. Ça fait partie de la santé du cerveau aussi.
Absolument, absolument. Et ça, c'est très, très, très important. Essayer de comprendre, c'est un des grands défis d'essayer de comprendre le drame des commotions cérébrales, c'est qu'on peut endommager le cerveau. Je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau avait cette capacité phénoménale de se réorganiser, de se réparer d'une certaine façon, sauf que certaines blessures, certaines commotions entraînent peut entraîner une détérioration de certaines régions du cerveau qui sont non régénérables. Mm-hmm. Et là, tranquillement. Et ce qui est souvent le drame, hein, c'est que notre cerveau, d'ailleurs, on le voit dans la maladie de Parkinson, dans les autres maladies neurodégénératives, c'est la même chose avec les blessures, les commotions, tout ça. Notre cerveau a une grande capacité d'en prendre beaucoup, si vous voulez. Il arrive à compenser pendant très longtemps, souvent, des morts cellulaires, des morts de certaines régions du cerveau. Et ce qui fait qu'on s'en rend pas compte. Mais à un moment donné, on passe là la goutte qui fait déborder le vase, si vous voulez. Et là, c'est là qu'on le remarque. C'est avec la maladie de Parkinson, par exemple, il y a eu une dégénérescence souvent de plus de 80% des cellules avant que la maladie se manifeste.
L'Alzheimer, c'est aussi ça?
Oui, c'est aussi l'Alzheimer. Alors, pour les commotions aussi, les gens peuvent compenser tout ça, mais il faut faire attention parce qu'on peut, avoir endommagé. Donc, un des grands enjeux, c'est d'essayer de pouvoir développer des technologies, des techniques qui vont nous permettre de mesurer plus finement si certaines régions du cerveau ont été affectées après un accident ou des choses comme ça. Pour se dire, ben là, il faut essayer de l'aider. On peut essayer de il y a beaucoup d'interventions qu'on peut essayer de faire pour aider le cerveau à lui donner le temps, si on veut, de se régénérer, les conditions pour se régénérer, minimiser le stress, etc., qui est sur ces régions du cerveau-là pour pas que le cerveau perde la bataille pendant la période de réparation.
Docteur De Koninck, vous étiez là pour nous faire la lumière sur le cerveau et on se rend compte là qu'on aurait pu en parler pendant 5 heures. Malheureusement, le temps file. Je voulais absolument vous poser une question, par contre, avant de vous laisser partir, parce qu'on entend souvent dire ça. Ah, on utilise juste 10% de notre cerveau. On a bien plus de capacité, nous, les êtres humains. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, ça?
Bien, c'est certain, quand je vous dis qu'on a 1 milliard de milliards de connexions dans notre cerveau, si vous essayez de faire le chemin entre toutes ces connexions, tous les chemins possible. C'est plus grand que le résultat est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Ça fait rêver, ça fait voir que le cerveau a des capacités immenses. Hein, c'est vraiment un organe phénoménal. Bon, quand on dit on utilise seulement 10% de notre cerveau, bon, des fois c'est un peu des messages un peu simplistes. Mais une chose est sûre, c'est que ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a une très grande partie de notre cerveau qui fonctionne dans l'inconscient. Ce qu'on appelle la portion consciente de notre activité du cerveau cérébral, c'est parfois juste seulement 10 à 15 % de l'activité globale. Vous le savez tous, quand on conduit, par exemple, vous allez au bureau, ben vous tournez, vous faites un paquet de gestes. On fait un paquet de gestes automatiques quand on apprend un sport, etc., quand on apprend à danser, tout ça. Il y a énormément de l'activité qu'on fait qui est automatique, qui est fait dans le background, et même aussi pour certaines personnes, des calculs mentaux, etc., sont capables de se faire dans le background. Donc, on a une immense capacité dans notre cerveau inconscient à faire un paquet de choses, et c'est seulement à la surface, si on veut, qu'on a une partie consciente qui, elle, vient orchestrer un peu ce que le reste du cerveau inconscient fait. Quelqu'un qui devient un excellent danseur, c'est quelqu'un ou un pianiste, c'est quelqu'un qui est capable de faire une grande partie de ça sans de façon automatique. Mais après ça, l'artiste vient par-dessus et il vient moduler, si vous voulez, ce que le reste de notre cerveau était capable de faire. Donc, dans ce sens-là, on a énormément de capacités dans notre cerveau dont on n'est pas toujours conscient.
C'est tout à fait fascinant, docteur De Koninck. Bien sûr, on va se quitter en glissant un mot sur ce 24 heures de science qui a lieu le 8 et 9 mai. On laissera le site www.science24heures.com sur le site du Canal M. Vous serez là le 9 mai pour continuer à faire la lumière sur le cerveau. 9 mai, c'est du côté de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. C'est gratuit, je pense, pour la plupart des activités également.
Oui, et puis ce qui nous caractérise ici, c'est chez nous, justement dans le contexte de cette thématique, c'est que chez nous, on développe beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies à base de la lumière, qui utilisent la lumière, des lasers, des fibres optiques, pour aller justement essayer d'étudier ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Le défi, c'est qu'on a ce cerveau ultra complexe, ce circuit ultra complexe, mais chacune des connexions est tellement petite que ça nous prend les bonnes technologies pour pouvoir suivre ce qui se passe dans ces petites connexions-là, à l'intérieur du cerveau. C'est ça que la lumière, c'est ça les portes que la lumière nous offre.
Docteur Yves De Koninck, vous êtes professeur titulaire de psychiatrie et neurosciences à l'Université Laval, également directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec et bien d'autres choses. Vous êtes vraiment quelqu'un de très fascinant. Merci beaucoup de votre temps. Ce sera un plaisir de vous reparler.
D'accord, merci.
Au revoir.
Bye.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Barry Crago, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef clinico-administratif à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et également l'initiateur, on pourrait dire, oui, de ce salon sur la santé mentale du Sud-Ouest de Verdun. 4e édition cette année, ça a lieu demain. C'est venu d'où ce projet-là? Une observation, une préoccupation?
C'est venu d'un groupe de participants au Centre Wellington de l'Institut Douglas. C'est un centre de jour pour les personnes avec des défis de santé mentale qui voulait avoir un événement qui rassemblait les groupes communautaires, les groupes en santé mentale pour qu'ils pouvaient se rencontrer, rencontrer leurs collègues, rencontrer tous les prestataires de services pour voir, avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'il y avait dans la communauté. Mm-hmm. Une fois que c'était commencé, ça a été repris par le CLSC de Verdun, qui est maintenant intégré dans une CIUS avec les réformes. Et c'est un mandat de la table des partenaires de Sud-Ouest en santé mentale et dépendance. Mm-hmm. Et donc, le comité organisateur, ce n'est plus moi qui fait ça. Je fais partie de la comité organisateur, mm-hmm. mais c'est beaucoup de groupes communautaires.
Mais le but, donc, c'était de créer des liens entre le grand public et ces organismes qui véhiculent de l'information.
C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu tellement d'intérêt. On pensait avoir 40-50 personnes. La première année, on a eu une centaine de personnes. La deuxième mm-hmm. année, 400 personnes. Ça fait boule de neige. Parce qu'on réalise que les gens, ils ont soif pour les renseignements.
Oui.
Ils ont soif pour une approche très terre-à-terre, très déstigmatisante. Tout le monde connaît quelqu'un, quelque oui. part, qui a un problème de santé mentale. Alors, cette année, au lieu de faire l'activité dans la journée seulement, on fait de 14 heures jusqu'à 20 heures. Parce que notre intention cette année, c'est de vraiment rejoindre pas juste les personnes qui sont suivies par les organismes en santé mentale, mais tout le monde qui a un intérêt pour la santé mentale, parce ouais. qu'on connaît quelqu'un, parce qu'on s'inquiète de quelqu'un, parce qu'on s'inquiète de soi-même. Mm-hmm. Alors, l'idée, c'est de rassembler tous les groupes qui offrent du soutien communautaire. Le soutien en général, soutien en hébergement, en recherche d'emploi, en pauvreté, en itinérance, en dépendance, n'importe quoi, parce que le premier effet secondaire d'un problème de santé mentale, c'est la pauvreté.
Ouais.
Mais tous les gens qui travaillent avec la pauvreté rencontrent aussi des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il est très important qu'on se parle, qu'on démystifie, qu'on réalise que la personne pauvre et la personne pauvre avec un problème de santé mentale, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Puis ils ont besoin de le même respect, la même approche.
J'ai l'impression aussi que des problèmes de santé mentale, ça amène une forme d'isolement. Et un événement comme ça, c'est de créer des liens avec des gens qui peut-être vivent la même réalité que nous, mais aussi des organismes qui peuvent réagir directement sur notre milieu.
C'était la première motivation pour le groupe-là. Les gens voulaient sortir de leur isolement. Et la chose qu'on voit, c'est que les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, surtout ceux qui ne sont pas spécialisés en santé mentale, eux, ils veulent sortir de leur propre isolement pour pouvoir avoir des partenaires quand ils font affaire avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Mm-hmm. Le temps file à vive allure, mais je veux absolument que l'on mentionne les conférences qui auront lieu pendant la journée parce que ce sont vraiment de très, très beaux sujets. On parle de comprendre et gérer les troubles anxieux. Également, on va offrir un service, un outil, la méditation pleine conscience. L'accumulation compulsive également, les dépendances. Tout ça, c'est offert par des spécialistes de la santé, des psychologues qui seront sur place. Rapidement, Barry Grego, pourquoi ces sujets-là?
Parce que, en général, le stress est une chose qui accompagne toutes sortes de dérangements sociaux. Alors, les gens qui ont la dépression, qui ont des problèmes particulièrement anxieux, il y a un intérêt pour ça. On a vu depuis 4 ans que les gens viennent en grand nombre à ces conférences. L'idée de la présentation de Camille Ozakia qui s'appelle « Je perds les pédales », c'est pour aider les gens à identifier l'utilité de l'anxiété et ensuite comment la gérer, d'avoir des outils. L'atelier sur la pleine conscience, c'est aussi un atelier présenté par quelqu'un qui travaille avec les personnes en santé mentale parce que ce sont d'autres outils pour gérer ça. L'atelier sur le premier épisode psychotique, c'est sur une équipe qui travaille avec des moyens médicaux et des moyens sociaux, le soutien à l'emploi, le soutien à l'hébergement, pour aider les personnes jeunes qui ont des problèmes de psychologiques qui ne sombrent pas dans un isolement et une institutionnalisation en santé mentale. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est l'atelier qui s'appelle « Enfoui dans nos trésors ». C'est un groupe de personnes qui ont des problèmes d'accumulation, qui vont parler,
compulsive,
c'est ça, qui vont travailler de comment ils ont pris conscience puis comment ils travaillent ensemble pour gérer ça dans leur vie.
Alors, on rappelle le lieu au Centre Champlain, c'est du côté de Verdun, mercredi 6 mai, de 14 à 20 heures. C'est gratuit. 50 organismes communautaires sur place, des spécialistes de la santé, des conférences. C'est tout ce qu'offre le Salon de la santé mentale du Sud-Ouest de Verdun.
Si les gens veulent avoir des renseignements, il y a une comptoir d'information.
Merci beaucoup, Barry Grego. Vous êtes chef clinico-administratif à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Merci pour ce très bel événement.
À vous aussi. Merci.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Mathieu Tessier, je suis gâtée aujourd'hui. Deux gars plutôt qu'un. Marianne Paquette au micro. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.